EMCI TV vous présente l'émission Teach avec Atoms. Un temps d'enseignement et d'étude de la parole de Dieu afin de faire de vous des disciples et vous aider à grandir dans votre foi.
Bienvenue sur Teach, votre mission d'enseignement et de maturité spirituelle. Ou surtout, je devrais dire pour cette semaine, votre mission qui vous fait découvrir le fruit de l'esprit. Parce que depuis la semaine passée, nous sommes en train de découvrir le fruit de l'esprit. Ça fait toujours drôle de vouloir parler au singulier chaque fois que j'en parle, mais que je me mette à citer d'autres termes après. Ce n'est pas moi, c'est la Bible qui dit dans Galates chapitre 5 que le fruit de l'esprit, c'est deux points, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance ou la bénignité, et aujourd'hui, la fidélité. Pourquoi la fidélité est un fruit, une manifestation de l'esprit? C'est intéressant surtout quand vous allez découvrir le mot que la Bible utilise là-bas pour fidélité. Il ne s'agit pas juste du fait d'être loyal, mais il s'agit de plus. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Puisqu'on parle du mot, définissons le mot fidélité comme Paul l'utilise ici. Dans le grec, Paul utilise le mot pistis. Le mot pistis dans la Bible, en grec, c'est le même mot par lequel on traduit foi, comme la foi. C'est aussi le même mot qui traduit loyauté ou fidélité. Constance dans l'engagement. Ici donc, le traducteur ne les met pas comme foi, mais plutôt comme fidélité. Le fruit de l'esprit, c'est la fidélité, la constance dans l'engagement, la loyauté. C'est croire et rester fidèle à ce que l'on a cru, rester loyal à ce que l'on a cru, rester constant dans l'engagement qu'on a pris dans ce en quoi on croit, si je dois bien expliquer ça comme ça. Le Saint-Esprit, quand il habite en nous, l'une des preuves qu'il est en nous et qu'il produit le caractère de Dieu, c'est qu'il nous donne d'être fidèles. Fidèles à Dieu, fidèles dans nos engagements. C'est très important d'apprendre à être fidèle dans ses engagements. Moi, j'ai appris certaines choses dans ma petite vie. J'ai appris que donner une parole, c'est donner un engagement, c'est plus qu'une parole. Ça s'envole pas. Les gens n'écoutent pas. Les gens, comment je vais exprimer pas? Et ça. Voilà, disons ceci. Ce qui est pour toi abstrait et pour les autres concret. Tes promesses ne sont pas des paroles abstraites. Ce sont des signes qui sont gravés dans les cœurs des autres. Ce que tu sors de ta bouche comme promesse, les autres s'en vont les graver à vie. Toi, tu te dis, oh, j'ai oublié. Ah, non, mais écoute, je peux changer d'avis. Non. Dès que toi, tu as fait la promesse, j'ai compris malheureusement avec le temps, après beaucoup d'échecs. Dès que toi, tu dis oui, ou tu dis, ok, d'accord, je vais voir. Dès que tu as sorti cette parole, quelqu'un s'en va. Grave ça sur le marbre. Il m'a dit dans 2 semaines. Et il va pas effacer ça. C'est parti. Et la fidélité, c'est quelque chose que le monde aujourd'hui n'a plus. De fois, on est infidèle sans le vouloir. Je ne parle pas ici au niveau conjugal. Je parle juste du fait qu'on a donné une parole et on ne l'a pas accomplie. Résultat, on est infidèle. Lisons d'abord la Bible. Lamentations, chapitre 3, versets 22 à 23. Lamentations 3, 22 à 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elle se renouvelle chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Le caractère que Dieu nous demande de développer, il en a lui-même. Le Saint-Esprit qui va produire en nous ce fruit, il en a lui-même. C'est un caractère qui est déjà en lui-même aussi. Jérémie dit ici, oh, que ta fidélité est grande. Il est en train de s'étonner de la fidélité, de s'émerveiller sur la fidélité de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a vu que les bontés de Dieu ne se sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, il se renouvelle, elle se renouvelle chaque matin. et il dit, waouh, tu es bon matin après matin. Tu as gardé la constance à ton engagement d'être bon. Ça montre combien tu es fidèle. Prenons Matthieu chapitre 25, verset 21. Très bien, lui dit son maître. Tu es bon serviteur, on peut avoir confiance en toi. Tu t'es montré fidèle dans une petite chose. C'est pourquoi je peux te confier une gestion plus importante. Viens partager la joie de ton maître. Parabole justement des talents. Jésus-Christ explique qu'il y a eu plusieurs serviteurs dont l'un qui avait un seul talent est allé voir le maître en disant, bah, écoute, je savais que voilà, tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Moi, j'ai eu peur de toi. J'ai juste gardé ton talent, le voilà, et je te le remets. Il dit, quoi? Tu aurais dû mettre ça même à la banque. Je récupéré ça avec des intérêts. Mais là, on le voit en train de récompenser ceux qui ont fait valoir le peu qu'ils ont reçu. Et il leur dit, bon et fidèle serviteur. Ils se sont montrés fidèles dans les petites choses et Dieu se prépare à leur donner des grandes choses. Non seulement qu'ils ont gardé ce qui leur a été donné, ils ont gardé aussi l'intention. Il ne suffisait pas de garder les talents. Il fallait garder l'intention du propriétaire qui est de vous avoir donné des choses, des valeurs. Il ne peut pas venir après demain et les voir ne plus avoir la même valeur. Puisque le temps passe, la valeur doit être augmentée. C'est pour cette raison qu'ils ont transformé ces talents, ils les ont investis et ils en ont gagné plusieurs. Pour que, quel que soit le temps, la valeur demeure. Fidélité, mes amis, on en cherche dans le couple. On cherche un mari, une femme fidèle. On cherche un parent, des enfants. Fidélité, on en cherche dans le milieu professionnel. On cherche un employé fidèle, qui n'est pas en train de courir vers n'importe quel salaire qu'on lui propose, pourvu qu'il puisse juste avoir son salaire, sans se demander si le travail qu'il fait ajoute un sens dans sa propre vie et dans la vie des autres. Tout le monde veut des clients fidèles. Quand il achète chez toi, tu veux qu'il achète chez toi tous les jours. Or, nous sommes dans un monde qui fait tout pour empêcher les gens d'être fidèles. Donc, même les clients de la même personne ici, on serait plus à l'aise qu'ils achètent chez nous tous au lieu qu'ils restent fidèles chez toi-même. On tente de fidéliser chacun dans son coin, mais on fait de son mieux pour pouvoir prendre quelqu'un qui était déjà fidèle ailleurs et l'amener chez nous. Vous voyez dans quel système nous sommes? C'est un monde qui veut de la fidélité, mais qui fait tout pour que les gens ne soient pas fidèles. La fidélité ainsi devient de plus en plus une valeur recherchée. Que peut-on nous dire de ce que le Saint-Esprit est censé produire en nous de la fidélité? 1. Dieu est fidèle et il nous appelle à refléter cette fidélité. Ok, c'est très important. Dieu est fidèle et il nous appelle à refléter cette fidélité. Tout ce que nous sommes en train d'apprendre ici sur le fruit de l'Esprit, c'est la nature de Dieu que nous devons nous-mêmes aussi manifester. Dieu veut que ses enfants soient comme lui. C'est un Dieu fidèle. Quoi de plus simple que de voir ses enfants aussi être fidèles? Toute la foi chrétienne est une affaire de fidélité. C'est de rester fidèle jusqu'au bout. La Bible parle dans le livre d'Apocalypse des récompenses qui sont réservées à ceux qui auront gardé la foi jusqu'au bout, ceux qui auront été fidèles jusqu'au bout. Dieu est fidèle dans ses engagements vis-à-vis de nous. Tout à l'heure, on a entendu Jérémie s'émerveiller dans Lamentation combien les bontés de Dieu et ses grâces se renouvellent chaque matin. Il dit, wow, que ta fidélité est grande. Mes amis, si Dieu est fidèle, il ne peut pas attendre moins de nous. Pas parce que nous pouvons par nous-mêmes être fidèles, mais parce qu'il a mis en nous son esprit qui nous apprend, nous qualifie à être fidèles. Ah, pasteur, tu sais, moi, je ne suis pas vraiment très fidèle. Hein. Je n'ai pas appris ça en famille. Hein. J'ai vu mon père être très infidèle à ma mère. Ce n'était pas un bon exemple. Je te comprends. Je comprends qu'il y a un conditionnement social, ainsi de suite. Mais, et Jésus alors? N'est-il pas vraiment venu changer quelque chose? Jésus peut t'apprendre à être fidèle là où un de tes parents ne te l'a pas appris. Jésus peut t'apprendre à être fidèle. Le Saint-Esprit que tu as reçu peut produire en toi de la fidélité que tu n'as pas vue comme exemple autour de toi. Si nous devions juste aller tous nous coucher sur nos lauriers à cause du conditionnement social, quelle est donc la puissance de l'Évangile? À quoi sert la parole de Dieu si finalement nous tous nous sommes condamnés par nos passés et la formation de notre personnalité? Et où est-ce que nous avons et l'influence sociale qui est autour de nous? Si parce que c'était dans papa, dans maman, j'ai grandi avec, donc je vivrai toujours comme ça. À quoi ça sert la conversation? Qu'est-ce que ça vient changer alors si on est censé être que l'héritage génétique, l'héritage de conditionnement social? Frère, Jésus peut t'apprendre à être fidèle là où personne ne te l'a appris. Sœur, Jésus peut t'apprendre à être fidèle là où personne ne te l'a appris. L'Esprit de Dieu peut faire jaillir de flots de fidélité que tu n'as jamais vu. Cette capacité à rester constamment dans l'engagement qu'on a pris sans pouvoir craindre la monotonie. J'ai vu des gens qui ont accepté une vie d'infidélité parce qu'il a peur de la monotonie. C'est dit, oh! Donc tu vas faire quoi? Rester seulement avec cette seule femme-là, seulement elle, toute la vie, matin, midi, soir. Ah, moi je vais... C'est pas quand même un peu monotone, je dois goûter à autre chose. Non, ce n'est pas que tu aies envie de goûter à autre chose. C'est simplement que tu crois que la fidélité est ennuyeuse. La fidélité, même quand c'est un engagement à la même chose, l'expérience quotidienne est différente. C'est justement la beauté et la bonté d'être en face de la même tasse que je tiens comme ici, mais d'en vivre les facettes tout le jour différemment, au point que c'est interminablement que tu es en la découverte de la même chose. C'est là que tu comprends tout le génie de l'inventeur. Mais si je dois prendre cette tasse et puis l'autre, je ne l'ai pas contemplé, je ne l'ai pas apprécié. Frère, Dieu est fidèle. Et nous, ses enfants, animés par son esprit, nous pouvons être fidèles. Deuxièmement, la fidélité s'exprime dans les petits comme les grands engagements. La fidélité, mes amis, ce n'est pas pour seulement le mariage, un grand engagement comme ça. Non, moi je suis fidèle, je ne trompe pas ma femme, je suis fidèle. Non, c'est aussi même dans les petits engagements où tu n'auras personne pour te faire pression, où tu ne ressentirais peut-être pas de prime abord les conséquences de l'infidélité. C'est en commençant à être fidèle dans les petites qu'en fait Dieu vous donne les grandes. Vous êtes enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu produit en vous de la fidélité à toute épreuve et à tout terrain. Toute circonstance vous semblant bonne ou mauvaise est une circonstance de fidélité. Dieu peut vous apprendre à être fidèle. Si vous n'êtes pas déjà fidèle avec vos propres enfants, vous leur avez dit non, demain à 12 heures, une chose qu'on apprend à faire avec ma femme, c'est tenir parole avec nos enfants. De sorte que si une circonstance venait à ce qu'on ne puisse pas être capable de tenir parole, on présente nos excuses sincèrement. Pas des excuses des parents dit « Ah, j'ai pas pu avoir le temps, vraiment, pardon, on verra ça plus tard. » Non. Si on ne sait pas être capable de rendre notre engagement, de tenir notre engagement, eh bien, on va demander pardon aux enfants. C'est pas juste pour leur donner une bonne leçon qu'ils apprennent à être aussi comme ça dans la vie. Non, c'est parce que nous avons décidé, nous, d'être comme ça, comme des enfants de Dieu sont censés l'être. La fidélité, mes amis, ce n'est pas parce que vous avez un contrat de millions. Non, mais c'est parce que je vous ai demandé ne fût-ce que d'être là à l'heure. Et vous tenez parole pour ça. Et vous êtes capable de vous excuser si vous ne savez pas tenir parole pour ça. Respecter les petits engagements sont déjà ça les signes de quelqu'un qui est mature, qui travaille à son intérieur, que le Saint-Esprit conduit. Vous êtes un enfant de Dieu, je vais le voir dans les petits engagements déjà, comment vous êtes fidèle à ces engagements. Êtes-vous fidèle dans vos engagements? Ou bien vous êtes en train de trouver des bonnes justifications spirituelles? Vous dites, non, écoute, j'ai quand même passé beaucoup de temps dans la prière la nuit, donc c'est pour ça que je ne suis pas arrivé à l'heure. Hé, hey, mon frère, tu savais à quelle heure était le rendez-vous? Tiens parole. Si tu ne sais pas tenir la parole, si tu sens que quelque chose va t'empêcher à la minute près d'être là, excuse-toi. Mais la fidélité dans les petites choses est déjà la marque de quelqu'un qui est mature et qui produit le fruit du Saint-Esprit. Es-tu fidèle? là où les gens ne te voient pas, est-ce que tu es fidèle? Est-ce que tu as cette foi dans l'engagement que tu as pris? Tu crois en l'engagement que tu as pris? La fidélité s'exprime dans les petites comme dans les grandes choses. Troisièmement, la fidélité est le fondement de la confiance entre frères. Par mot frère ici, ne voyez pas le masculin, la Bible aime utiliser le mot frère pour dire tout le monde. Donc, hommes et femmes. La base, le fondement de la confiance, c'est la fidélité. Quand quelqu'un sait régulièrement reproduire la chose qu'on attend de lui, il fait qu'on commence à avoir confiance en lui. Tu es fidèle, tu crées la confiance. On a confiance en toi, ça nous donne de la patience vis-à-vis de toi. Je vous explique un peu mieux la chaîne. On attend de toi accomplir quelque chose. Tu l'accomplis. Chaque matin à 7 heures, tu es là chaque matin à 7 heures, chaque matin à 7 heures. Cette fidélité va bâtir de la confiance. On a confiance en toi, en tes résultats. On a confiance en ce que tu entends faire. Maintenant, puisqu'on a confiance en toi, le jour où tu n'arrives pas à 5 heures, on s'inquiète, mais on attend. On ne se dit pas, ah non, lui, on trouve ça anormal d'ailleurs. Ouh, comment est-ce possible? Si tu nous appelles et tu nous dis, écoutez, je ne peux pas arriver à 5 heures aujourd'hui, pardonne-moi, je vais peut-être arriver à 8 heures. On ne va pas se dire, 8 heures, il n'arrivera pas. Qu'est-ce qui prouve? Il n'était pas là à 5 heures, qu'est-ce qui prouve qu'il sera là à 8 heures? Non. Avec les temps, tu nous as prouvé que tu tiens parole. Ta fidélité a bâti sur la confiance dans ton engagement. Et cette confiance est allée dans le compte de la patience que nous devons avoir vis-à-vis de toi. Nous sommes patients avec toi parce que nous avons la confiance en toi que tu as bâti à force de fidélité. Aujourd'hui, dans les couples, les gens ne se font plus confiance. Aujourd'hui, dans les églises, les gens ne se font plus confiance. Pourquoi? Parce qu'ils ont constamment été mauvais. Ils ont bouclé le boucle d'un mauvais comportement tellement plusieurs fois que la confiance est perdue. Dieu, aide-nous à reprendre les confiances, à restaurer la confiance des uns des autres. L'être humain ne mérite pas l'attitude qu'on lui accorde. Il ne mérite pas le pardon, il ne mérite pas tout ce qu'on doit lui donner. Mais j'aimerais vous demander, donnez-vous à vous tous une seconde chance. Quelqu'un a constamment, fidèlement prouvé son incapacité. Accordez-lui une seconde chance pour qu'il refasse une autre boucle de la vie. Qu'il commence une nouvelle série de bienfaits. Vous savez, quand vous donnez à quelqu'un une seconde chance, vous dites, OK, on va refaire alors. Et dès la première minute... Même si on a remis le compteur à zéro, il fait le premier tour fidèle, on attend au moins. Deuxième tour, il n'est plus fidèle. Tout de suite, on a même plus de patience. Il s'est dit, mais ce n'était que la deuxième fois. Il dit, non. Puisque tu as été infidèle, ça rentre sur le compte de tout ce que tu as déjà fait. Mais on avait déjà annulé ça. Mais oui, justement, c'est parce que tu as été tellement infidèle que tu dois avoir compris l'importance et l'utilité de la fidélité. On devient plus rigoureux envers quelqu'un qui a été infidèle hier. On devient impatient, on ne justifie pas l'infidèle d'hier. Même si on s'est remis dans les bonnes relations, on s'est rendu compte que voilà, il a pris une décision de montrer quelque chose, d'avoir de nouveaux comportements. OK, j'ai pris la décision... Je ne vais plus tromper, je rentre à la maison à l'heure. Aujourd'hui, il rentre à l'heure, on se dit, on l'acclame. Demain, déjà, il commence les justifications. Oh, tu sais, c'est vraiment de ma faute. On se dit, aïe, 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 le gars, il n'a peut-être pas changé. La fidélité, mes amis, est un fondement de la confiance entre frères. Pour qu'on se fasse confiance à l'Église, on se fasse confiance dans cette affaire, on se fasse confiance dans le projet qu'on a ensemble, on doit tenir nos paroles, respecter nos engagements. Quatrièmement plutôt. La fidélité se cultive dans la régularité, la prière et la responsabilité. Voilà le secret pour être fidèle. Un, régulier. Fidélité rime avec régularité. Ça veut juste dire régulièrement. Ça ne veut pas dire sans faute. Ça ne veut pas dire qu'un jour tu tomberais pas malade. Ça ne veut pas dire qu'un jour tu manquerais pas de moyens. Ça ne veut pas dire qu'un jour tu seras pas fatigué. Mais le maximum que possible, sois régulier. Nous allons régulièrement à l'école pour étudier. C'est pas pour autant qu'on aille les dimanches. Il y a des jours où on n'y va pas. Mais de ce qui est possible à faire, on se force de le faire au maximum. Alors j'insiste, frères et sœurs. Vous voulez apprendre la fidélité, apprenez la régularité. Ne vous mettez pas en joug difficile pour rien. Ne vous demandez pas à vous-même de prier à une heure que vous serez incapable de le faire. Mais vous voulez juste le faire pour vous défier. Non. Ne prenez pas des engagements outre mesure. Prenez même un petit engagement pour lequel vous serez régulier. Mais à côté de ça, la prière. Je vous assure, il n'est pas de la nature de l'homme sans Dieu d'être fidèle. Tu as besoin de prière. C'est la prière qui te permet de recentrer tout ton être sur un engagement déjà pris. La prière est très importante. Regardez Jésus qui a pris un engagement fort de venir mourir à la croix. Plus il s'approchait de cet engagement, plus il priait. Plus il faisait des prières intenses, des prières à l'agonie. Mes amis, vous voulez apprendre à être fidèle? Mettez la prière en avant. La prière elle-même vous apprendra la fidélité. Quand vous apprenez la régularité de la prière, vous commencez à apprendre aussi la fidélité dans d'autres aspects. Mais sans Dieu, nous tous, on ne peut rien faire. Et la troisième des choses, c'est la responsabilité. On cultive la fidélité par la régularité, par la prière et aussi par la responsabilité. Ça signifie, la responsabilité, c'est la capacité à être la dernière personne sur la ligne ou je vais dire sur... je vais mieux reformuler ça. La responsabilité, c'est le fait que vous êtes la dernière personne à répondre de la situation. C'est ça. Si vous êtes responsable d'une chose, c'est-à-dire que sur la chaîne de commandement, au bout là-bas, la personne qui doit répondre à toutes les questions, c'est vous. C'est ce qu'on appelle la responsabilité. Et la responsabilité, c'est la capacité de savoir que dans chaque engagement que je prends dans la vie, je suis la personne à y répondre. Si ça marche, si ça ne marche pas, la question est chez moi, la réponse est chez moi. C'est-à-dire, si ça marchait, c'est moi. Si ça n'a pas marché, c'est moi. C'est ça être responsable. C'est de se dire que ce dans quoi je me mets, je n'ai pas besoin de quoi que ce soit d'autre d'extérieur qui me servira de justification. Si ça marche ou ça ne marche pas, la seule justification, ça sera moi. C'est moi qui vais devoir y répondre. Quand quelqu'un n'a pas cette attitude de considérer que ce qui lui revient comme charge, il en est responsable. Vous aurez beaucoup du mal à le voir être fidèle. Quand quelqu'un apprend la responsabilité, c'est alors qu'il apprend aussi la fidélité. C'est pour cette raison, en tant que, je parle pas de couple ici, mais j'aimerais quand même placer cette idée. Quelquefois, quand il m'arrive de parler avec ceux qui veulent aller en couple ou de conseiller quelques couples, surtout ceux qui se préparent à se marier, je ne cesse pas de leur dire, dans le processus de votre préparation au mariage, apprenez de la responsabilité, surtout les hommes. Apprenez à être responsable. C'est pourquoi les parents disent, quittez la maison, allez vivre vous-même. C'est pour que vous puissiez vous dire, si je ne mange pas ce soir, c'est moi. Et que vous puissiez pas promener dans la maison en disant, on n'a pas mangé, maman n'a pas préparé, pourquoi on n'a pas préparé? Si je dors dehors et qu'on me chasse de la maison à cause du loyer, c'est encore moi. Si je vais à l'école et finalement en classe, à l'université, que je n'ai pas réussi à cet examen parce que je jouais aux jeux vidéo toute la nuit, le responsable, c'est encore moi. Quand on commence à prendre conscience qu'on est le responsable de ses actions, on doit en assumer les conséquences. On a commencé à cultiver petit à petit quelque chose qui va s'appeler demain de la fidélité. Si quelqu'un est irresponsable, ne t'imagine pas qu'il va être fidèle à la maison. Non, c'est pas possible. S'il y a une valeur importante à bâtir dans les masculins, dans les gardiens des foyers, c'est la responsabilité. Ça va bâtir en eux le courage, ça va bâtir en eux la régularité et ça fera des personnes fidèles. le sentiment de la fidélité reviendra parce qu'il sait que les conséquences, c'est encore lui qui va prendre son charge. La responsabilité, ce n'est pas le fait qu'il paye le loyer, qu'il sorte juste de l'argent, mais la capacité à savoir qu'en fin de compte, c'est moi. Tout engagement, toute parole que je donne reviendra vers moi. Je dois devoir assumer. Et enfin, qui dit fidélité? C'est dire que la fidélité est un témoignage puissant dans un monde d'inconstance. Dans ce monde où nous sommes, où les gens n'arrivent pas à rester longtemps avec la même chose. D'ailleurs, c'est devenu révolu de garder la même chose pendant longtemps. On vous appelle vieille école, vintage, fossile. Vous êtes dans avec des vieilleries, il y a déjà un nouveau modèle. Garder la même chose de façon constante, rester dans ça, le monde d'aujourd'hui ne trouve pas ça comme une valeur. Parce que ce monde est inconstant. Il est complètement plutôt inconstant. On aime utiliser un terme dans le domaine des affaires. On utilise le terme VUCA, qui parle de vulnérabilité et de ce caractère imprévisible du monde dans lequel nous sommes. Tout change n'importe quand. La chose qui pouvait tenir le marché de façon constante et demain il y a disruption, tout cela change, autre chose qui prend le rêne. Eh bien, plus que jamais, nos foyers ont besoin de fidélité. Nos enfants veulent voir à quoi ressemble la fidélité. Si à la publicité, ils vont pas le voir. La publicité encourage chacun à abandonner une chose. Allez, la publicité met les clients au point, met les consommateurs vraiment à la place de roi. Tu as le droit de choisir ce que tu veux. D'ailleurs, ne choisis jamais une seule chose. Varie les plaisirs. Comme ça, chacun a la chance de t'avoir pour client. Si c'est ça que le monde encourage aujourd'hui. Il est important que nous, chrétiens, nous montrons par le Saint-Esprit qu'on peut être fidèle. Et vous savez quoi? Nous sommes potentiellement fidèles. C'est-à-dire que la potentialité de la fidélité est en nous par le Saint-Esprit. Le potentiel d'être fidèle est en nous. Et le Saint-Esprit veut le produire en nous comme de fruits. J'aimerais prier. Laissez-moi prier. Abba, je voudrais te prier pour des couples, des familles, des employés, des employeurs, des relations qui ont souffert de l'infidélité. Tant pour la personne qui était infidèle que celle pour qui on a été infidèle. Je prie, Seigneur, la restauration. Là où la confiance a été brisée, Seigneur, je t'en supplie, permets à ce qu'il y ait une seconde chance. Oui. Permets à ce que la grâce fasse son œuvre. Redonne l'occasion de prouver que le fruit de l'esprit fonctionne. Aide mon frère, aide ma sœur à se réveiller sur ses engagements et de s'améliorer sur la façon d'y respecter. Des engagements tant petits que grands. Saint-Esprit, merci d'éveiller notre esprit sur la régularité et la responsabilité que nous avons envers les uns les autres et envers nos paroles données. Nous te le prions. Au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse et voyons-nous demain pour continuer tout ça.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires de EMCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Teach sur emcitv.com.